Les enfants de Chronos. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite notice sur le château de Rouy. La commune de Rouy est souvent célèbre et citée pour ses vestiges de sanctuaires gallo-romains, au toponyme Champlieu. Pourtant, au cœur de la vallée de l'Automne s'élève à mi-pente une belle maison noble, ce qu'on appelle aujourd'hui le château de Rouy. On l'assimile souvent à la maison templière de Rouy, qui est effectivement mentionnée dans un parchemin conservé aux Archives nationales et qui nous relate l'interrogatoire des templiers emprisonnés en 1307. Mais c'est une erreur. La maison templière est à localiser en réalité à la ferme de Beauvoir, hameau de Rouy aujourd'hui. Alors que cette propriété des Templiers était passée aux mains des Chartreux de l'abbaye de Bourgfontaine, Bourgfontaine est au sud de Villers-Cotterêts, après la dissolution de l'ordre, un document de 1595 nous la décrit ainsi : un hôtel, grange, estable, bergerie, lieu et pourpris comme il se comporte, le tout fermé de murs. En somme, la ferme de Beauvoir était une belle ferme monastique, héritière d'une commanderie templière, comme il en existait sans doute une centaine dans le Valois à cette époque. Mais revenons à notre château. Le premier seigneur connu du château de Rouy est Antoine d'Esterlan, cité en 1424 et déjà seigneur de Bourneville en Valois. Bourneville en Valois est aujourd'hui un hameau de Marolles, près de la Ferté-Milon. Il semble que dans le contexte difficile de la reprise de la guerre de Cent Ans, après l'assassinat de Louis d'Orléans en 1407, Rouy ait beaucoup souffert. Antoine d'Esterlan aurait même été contesté sur ses terres, probablement dû au passage de règne entre le roi français et le roi anglais dans notre territoire. Mais les documents manquent pour bien nous permettre de dresser la chronique de cette période compliquée à Rouy. Près d'un siècle plus tard, par contre, en 1514, une dame apparaît, Marie de Brun, apparemment vicomtesse de Rouy et veuve. Elle est remariée à Jean de Foucault, archer des ordonnances du roi, qui sera présent à la désastreuse bataille de Pavie en 1525 aux côtés du roi de France François Ier. Son fils Antoine sera à son tour capitaine de la ville de Compiègne et commissaire des guerres, sous les ordres du connétable Anne de Montmorency, puis son petit-fils Antoine II, capitaine de marine. Plus tard encore, François Foucault, un lointain descendant, militaire lui aussi, sera ami du grand dauphin de France, fils du roi Soleil, Louis, dit Monsieur, ou le grand dauphin, et le recevra apparemment plusieurs fois à Rouy avec sa suite. Alors la bâtisse elle-même. Il s'agit d'un ensemble hétérogène, datant essentiellement de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance, le tout disposé sur une plateforme terrassée à flanc de coteau. Le logis, tout d'abord, est composé de trois bâtiments adossés, en réalité quatre, mais le dernier est une tour néo-gothique ajoutée au XIXe siècle qui nous intéresse peu aujourd'hui. Le premier de ces bâtiments est un corps carré sur cave. Le logis lui-même est rectangulaire avec tour et tourelle, et le troisième de ces bâtiments est une porterie à tourelle et choguette sur contrefort. Alors le corps carré, il est très transformé, mais il présente plusieurs ouvertures anciennes dans ses façades, dont ce qui pourrait être une porte, peut-être un vestige d'un accès extérieur. Plusieurs contreforts et surtout, je vous l'ai dit, une très belle cave accessible par un escalier droit à ressaut depuis le bâtiment voisin. Un escalier droit à ressaut, c'est un de ces escaliers que nous retrouvons régulièrement dans le Valois et dont la particularité est de donner l'impression que répond aux marches un revers d'escalier voûté au plafond. Ce type d'escalier, vous le voyez dans la plupart des monuments, le meilleur exemple en étant les escaliers des caves de Pierrefonds. Une niche dans le mur est, un jour plus haut que le fil de la voûte, et une sorte d'autel en dalle de pierre, semblent concorder pour faire de cette cave une ancienne chapelle semi-enterrée. C'est assez curieux, mais dès le milieu du XIXe siècle, le grand érudit Louis Grave avait lui-même déjà évoqué une chapelle en son temps, d'après une mention, malheureusement qu'il ne nous référence pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait émis cette hypothèse sans connaître le site. Or, l'observation architecturale aurait tendance à aller dans le même sens. Le plus curieux, c'est de trouver sous cette première cave une seconde cave en enfilade, plus basse d'un niveau, accessible elle aussi par un escalier à ressauts légèrement différent du précédent, et elle présente des cellules, quatre en l'occurrence, voûtées en ogive, et dans l'une de ces cellules, une grande dalle de pierre qui a fait naître la légende tenace d'un fantôme de chevalier attaché au château de Rouy. Il faut dire qu'il y a parfois peu entre dire l'histoire et raconter une histoire. Le grand corps de logis voisin est simple, massif, très remanié à l'époque classique alors que l'on a cherché à régulariser la façade par recherche de symétrie et d'ordonnancement. Peu importe, l'essentiel est là. En y regardant de plus près, indépendamment des fonctions classiques d'un logis, que vous commencez à connaître, étage de service du maître au rez-de-chaussée, salle publique ou semi-publique au premier étage, espace privé et résidentiel au second, on remarque surtout que la petite tour engagée en milieu de façade ouest n'est en fait pas seule. Lorsque l'on a la chance de pouvoir rentrer dans le château et que l'on monte dans le comble, on découvre ainsi que maçonnerie engagée circulaire dans le mur répond à la précédente, et on nous montre ainsi que le logis a été agrandi en réalité d'une travée vers le nord. Sa surface, si vous voulez, a été augmentée d'un quart. Plus surprenant encore, il présente une charpente remarquable, sans nul égard dans tout le Valois. Elle est à l'origine d'un type courant, ce qu'on appelle fermé panne, mais peu importe. Elle porte aujourd'hui une couverture à quatre pans. Mais en réalité, à l'origine, cette charpente était une charpente à deux pans, encadrée par de très hauts pignons, dans le style de ce que nous pouvons voir à l'abbaye du Mont-Cel, par exemple. Et le plus curieux, c'est que s'intégrer dans cette charpente une structure en pan de bois interne qui est aujourd'hui, avouons-le, inexplicable. Quoi qu'il en soit, le logis, moins long, plus haut, avait donc une toute autre allure que le château actuel. J'oserais dire plus majestueuse. Quant à la porterie, à l'est, elle est malheureusement largement dénaturée. Et il est impossible aujourd'hui de savoir s'il s'agissait d'une porte charretière ou d'une porte piétonne. Mais vraisemblablement, la première possibilité est à privilégier au vu de la puissance de l'édifice et de la hauteur des tourelles sur contrefort. Cette porte donc devait mener, avant que le bâtiment précédent soit rallongé, depuis l'extérieur vers la cour arrière. Entoure tout cet ensemble de trois bâtiments une enceinte dont les murs ont été assez régulièrement repris, réparés et modifiés. Quoi qu'il en soit, avec une enquête archéologique un petit peu minutieuse, on perçoit encore aujourd'hui au moins deux tourelles dans cette enceinte et plusieurs reprises intéressantes et bavardes. Ces tourelles ont été partiellement reprises elles-mêmes, mais le cadastre ancien, dit cadastre napoléonien, aurait tendance à nous faire penser qu'il en existait au moins quatre à l'origine, peut-être même cinq. Mieux encore, l'observation des maçonneries actuelles révèle qu'il existait deux importantes bâtisses le long des murs est et ouest de l'enceinte. Et, si le cadastre ancien les confirme et nous donne l'impression que celui-ci à l'est était le plus imposant, des indices architecturaux actuels nous portent à penser l'inverse. Nous l'avons dit, le château, au moins au début du XVIe siècle, est propriété de familles riches. Et, à la fin du XVIIe siècle, on reçoit même la famille royale à plusieurs reprises. Il faut donc de la surface pour loger et vivre dignement, noblement, aurait-on dit à l'époque. Il faut de la surface pour accueillir un noble, et particulièrement un fils de roi, avec sa suite. Il faut donc se figurer que les deux bâtisses qui étaient accolées à l'enceinte et que nous évoquons ne sont pas secondaires. Elles constituent, très probablement, depuis la Renaissance et plus encore depuis la fin du Moyen-Âge, des espaces à part entière de la haute cour, des espaces à part entière du secteur noble. Ce que l'on a tendance à résumer aujourd'hui à un logis de plan massé était vraisemblablement beaucoup plus grand. Et si ces bâtiments sont presque invisibles aujourd'hui, ils présentent pourtant des indices tels que des vestiges de fenêtres au ras du sol. Alors vous allez me dire, au ras du sol, voilà qui est curieux. Mais en fait, ces parties des anciens bâtiments sont vraisemblablement effondrées sur elles-mêmes et ont ensuite été terrassées. Elles ont en quelque sorte été enterrées sur leur propre remblai de démolition. En bref, il y a au Rouy aujourd'hui, autour du logis, qui ne résume pas le château, ce qui est en fait un château bien plus vaste, et il sommeille. Vous aurez l'occasion de vous y promener et j'espère que vous garderez à l'esprit que vous marchez alors sur plusieurs siècles d'histoire et d'architecture, sur une réserve archéologique ayant pris l'apparence d'un remblai couvert d'une belle pelouse. Voilà de quoi rêver et fantasmer, en tout cas pour tous les découvreurs de châteaux. Thank you.